un peu plus jazz, un peu plus jazz, pourquoi pas? Hey, salut, bienvenue. Jacques-André, la dernière fois qu'il m'a appelé, là, je voulais compter, là, mon chum qui est à CI2 Montréal, qui dit c'est quoi ton setup de podcast? Je voudrais commencer, c'est quoi, tu sais? Fait que là, je voulais raconter, je demande. J'ai dit, ben là, je pars une musique sur YouTube. Puis je mets mon iPhone à côté du haut-parleur. Après ça, je pars, comme je viens de faire, comme je fais tous les matins. T'sais. Et il m'a donné une crème de bonne idée. Parce que je disais, je suis en robe de chambre. Là, c'est pas vrai, je suis habillé. Parce qu'après ça, je m'en vais déjeuner. Mais ça fait qu'il dit, pourquoi tu te filmes pas? Parce que c'est vrai que beaucoup de monde me demande ça, cette question-là. Puis si tu tombes pas sur un épisode où je l'explique, c'est pas à chaque jour, je recommence pas à vous dire, hey, je viens de mettre mon iPhone à côté. Ça fait que je vais tourner ça bientôt, là. C'est-à-dire que je vais mettre sur ma chaîne YouTube la chaîne de Chef Boileau Cuit, dont je vais refaire un épisode bientôt, parce que je me fais demander. Mon Dieu, j'ai jamais vu aucun projet avec aussi peu de views avoir autant de réactions. Ça me fait capoter. Puis, je vais me filmer. Je vais filmer un épisode. C'est quoi là, au complet, là? Tu sais, ça, je vais être en robe de chambre. Je vais aller me voir. Je pèse sur l'application. Je vais tout le faire. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, bien, je vais dire, « Hey, by the way, si vous voulez savoir comment j'enregistre, mais rendez-vous sur ma chaîne. » Ah, je trouve ça très drôle. Aujourd'hui, gros épisode où je vais parler médias, humour, processus créatif, du mieux que je peux, là, pas parce que comme si j'étais le grand spécialiste, mais vous allez voir, ça vient de plein de réflexions du week-end. Mais tout d'abord, une excellente anecdote, ravissons-nous avec ma xème crevaison. Alors, moi, je fais du vélo à l'année. L'an passé, il a fait très froid. Je suis mon propre baromètre de quel genre d'hiver on a eu. J'en ai fait 3 fois, alors que normalement, j'en faisais 2 fois par semaine. Bien, sur les 3 fois, crois-le ou non, j'ai eu 2 crevaisons. Puis là, en plus, il arrive tout le temps quand je suis rendu à la salle. C'est-à-dire complètement à l'autre bout de où moi j'habite. Fait que dans chaque cas, c'est appelle un Uber, rentre le Uber là-dedans, va porter ça au Sport Expert. Ou bien, à un moment donné, il y avait une petite shop pas loin. Ah non, je suis pas capable de réparer ton pneu. Incroyable. J'arrive en Floride. Je suis allé chez ma sœur en novembre, puis je suis allé chez ma sœur en février. Je vous le jure, 2 crevaisons en Floride. Il y a le vélo de mon beau-frère, puis le mien. Je prends le mien. Paf! C'est que là, il dit, regarde, il me montre le gars, parce que là encore, là, marche pendant quasiment 1 heure. En tout cas, bref. Ça fait que je suis rendu à 4 crevaisons dans 2 pays différents. Donc, tu vois que c'est une malédiction qui me poursuit. Bien, j'étais en fin de semaine, je suis allé faire mon petit triangle que j'appelais à l'époque, que j'ai refait depuis que j'ai acheté une moto à nouveau. Je suis allé au Lac aux Sables chez mon frère. Lui, c'était à Saint-Alban, là, juste avant. Après Lac aux Sables, j'ai dormi là vendredi. Après ça, la ride jusqu'à Québec. J'ai passé par la 132, le chemin du Roi, là, Saint-Augustin, tout ça, super génial. Je vois Sylvain, mon ami Sylvain, pendant le jour. Chez ma mère vendredi soir. Samedi soir, excuse-moi. Et puis, je remonte dimanche. 8h30 le matin, je suis sur ma moto, il fait super beau, on part. Juste avant d'arriver à Drummond, voyons, pourquoi ça avec ma moto? C'est quoi cette espèce de shake-là? Je rêve-tu? Puis il faut que je fasse faire ajuster le timing. C'est que des fois, même quand tu roules à 100, t'as l'impression que ça fait un peu pop, 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 tu sais, comme ça saute. Mais là, c'est que j'arrête sur le bord du chemin. Je donne un coup de pied dans le pneu d'en avant, il n'y a rien. Je donne un coup de pied dans le pneu en arrière, et le pneu qui, tu sais, que je vois qui rentre d'à peu près. Calvaire. Fait que là, je suis abonné à rien de service routier. Fait que là, sors le téléphone, je m'abonne à Club Automobile. Là, après ça, je les appelle. Là, j'avais vu que j'ai pris le gros abonnement parce que c'est pas beaucoup plus cher d'être abonné premium. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour arriver. Ça m'a coûté 209$. Puis le prochain coup, je peux me faire remorquer sur 500 km. Comment ils font? En tout cas. Ça fait que là, j'appelle. Là, il dit « Oui, on peut vous remorquer à 30 km. » Je fais « Hey, je viens de m'abonner. » Il dit « Ben oui, mais puis en même temps, j'y ai pensé. » Je fais « Ils ont bien raison. » Il dit « ça prend 7 jours pour avoir le plein forfait. » Pourquoi? Pour éviter les Marc Boileau qui s'abonnent juste quand ils sont dans la marde. Ça fait que là, appelle ma sœur qui arrive de l'île des Sœurs pour venir me chercher pendant que moi, je cale justement le remorqueur qui arrive 15 minutes après, service comme aïe. Ça fait que là, on s'en va porter ça à 5 grandes tam de patente, en tout cas, juste la sortie après la sortie de Drummond. Ça fait que là, au moment où on se parle, là, ma moto est là-bas, j'ai caché la clé, je leur ai écrit, tantôt ils vont m'appeler, j'ai laissé ma carte. Puis là, il va falloir que je retourne Genre demain, parce qu'aujourd'hui, j'annonce la pluie, ça me tente pas de me faire pleuvoir pour... C'est que là, ma sœur encore, excuse-moi, pardon, tu sais, elle fait ça gritter de cœur, là, elle avait le temps puis tout, mais quand même. C'est que, hey, je suis rendu à 5 crevaisons. Pour vrai, là, je t'avais de me... Je vais crever un espadrille, tu sais. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous parler. La première, c'est que je suis très excité du Centre Bell avec Mike. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Mike Ward est au Centre Bell, non pas pour faire un show, non pas pour faire un spectacle musical, whatever, pour jaser. Il s'en va jaser avec des invités. Imaginez-vous, ça s'appelle un podcast. C'est le premier qui a lancé... Non, le premier, c'est Yann Thériault qui a lancé ça au Québec, qui le fait encore, et d'ailleurs avec de plus en plus de succès. Notre épisode est rendu à 5000 views qu'on a fait. Je suis supposé retourner dans quelques semaines chez Yann. Il m'a dit « Attends, laissons passer le Centre Bell. » Parce que sinon, ça se peut que je te mette des dates qui changent tout le temps, puis on se refait un épisode, puis tout. Fait que ça a été vraiment super intéressant. Donc ça, je suis très content. Et pourquoi je vous parle du Centre Bell? Ben, de un, parce que je trouve que c'est extraordinaire comme événement. Mais de deux, ça vient me chercher à plusieurs égards. Et la preuve que ça vient me chercher, c'est que moi, j'ai su ça lors de un, sinon leur premier meeting, totalement par hasard, à Longueuil. J'étais avec mon ami Ésaudre Éric, on était... au Gros Luxe, sur Saint-Charles. Puis moi, je suis déjà installé là, puis d'un coup, qui je vois pas arriver? Mike, Yann, puis Michel. Salutations à Michel. Fait que là, moi, je me lève, tu sais, puis je fais « Hey, c'est pas un hasard. » Il dit « Ben, c'est parce qu'on fait notre meeting. Sous écoute, on s'en va au Centre Bell. » Et je suis devenu extrêmement ému. Je sais pas si ça a paru, Michel me le dira. J'avais les yeux dans l'eau parce que je trouvais ça extraordinaire, mais pour beaucoup de raisons, que dans le fond, j'ai jamais exprimé. La première, c'est que la magie de contourner les décideurs médias qui ont rarement de la vision, puis c'est pas parce qu'ils ont nécessairement techniquement pas de vision, mais il y a beaucoup de blocages, incluant les ventes, qui veulent jamais risquer quoi que ce soit parce qu'ils sont payés à commission. Ça, là, écoutez bien, c'est très pointu ce que je vais vous dire, mais c'est une des raisons pour laquelle vous trouvez que ça rock pas beaucoup en TV puis en radio. C'est la rémunération des vendeurs qui sont... Tous, sauf exception, sont tous rémunérés à commission. Et ils sont complètement exempts des résultats. C'est-à-dire que, mettons, 100% de leurs revenus viennent des ventes. Fait que si vous avez le choix entre, pour le nouveau talk show, proposer à la direction d'avoir Stéphane Rousseau ou d'avoir le nouvel humoriste de l'heure qui monte mais qu'on ne connaît pas trop, qui que vous prenez? Ben, lui, le vendeur, il se retourne et il pense à ses clients. Il dit « Quand je vais dire à mes clients, c'est Stéphane Rousseau. » Ben oui, on va placer. En aucune circonstance, les vendeurs d'un média se demandent « Ça va-tu marcher? » Parce qu'au pire, si c'est un flop total puis que la station s'écroule, ils changent de job. Le premier move que je ferais si j'étais un directeur général d'une station de radio ou de télé, c'est que je changerais la rémunération des vendeurs, pas pour leur enlever une scène. Je m'organiserais pour faire un calcul qui revient exactement ou même mieux aux ventes qu'ils ont là, mais 50% de la rémunération viendrait des ventes et 50% des codes d'écoute. Et là, tout le monde serait intéressé aux résultats. Et aux résultats à moyen et long terme. Tout le monde ferait comme à telle minute, là. Là, tu me dis, on va prendre lui, là, le premier qui te vient en tête, là, que tu connais, puis que tu es au courant, puis on va lui faire une grosse somme, blablabla. Mais ça va-tu tenir la route? Ça va-tu dénaturer l'antenne? C'est-tu un genre de case pas rapport où ce que plein de monde va arriver, bon, on s'en allie la minute après? C'est toutes des questions extrêmement pertinentes, mais whoop, c'est pas là-dedans. Fait que quand j'ai vu Mike qui a réussi à gosser, parce que le monde dit, ah, sous-écoute, ça marche. Ah oui, ben oui, ça marche. Facile, t'invites du monde. Ben, facile. Ça a pris des, je pense, 5 ans avant que ça lève. Qu'il investissait, il payait Yann lui-même, il payait le kit, tout. Il mangeait de l'argent. Il se disait, il va se passer de quoi avec ça? Il se passait de quoi? C'est rendu que, je vous répète, il va y avoir 25 000 personnes qui s'en vont voir du monde placoté, comme on dit en québécois. C'est extraordinaire. L'autre affaire, c'est que c'est une réussite que moi, je n'ai pas réussi à atteindre. C'est-à-dire que moi, j'ai encore toutes sortes d'ambitions, puis tu sais, je pousse mes projets, puis là, j'ai mon nouveau show, puis telle affaire. Mais je n'ai pas réussi, moi, à faire une disturbance, comme on dit en très mauvais français, mais à faire un choc qui amène autant de monde à me suivre. Mais non, je n'ai pas réussi. Fait que ça me touche de voir que ça se peut, puis que c'est mon chum qui réussit ça. Tu comprends? C'est comme, aïe aïe, lui, là, il va goûter à quelque chose. C'est un rêve absolu, là. C'est comme... Fait que pour ces raisons-là, je trouve que ça m'électrifie. Ouais. Je pense à ça depuis une semaine. Puis je suis même pas là, là. J'ai acheté mes deux billets. Ça, c'est l'autre affaire. J'ai acheté deux billets aussitôt que j'ai pu acheter deux billets. J'ai acheté deux bons billets bien placés. D'un, c'était pas cher. Je faisais 25$, genre, que ça coûtait. Ou je ne fais pas de même. En tout cas, bref, c'était vraiment abordable. Puis Mike puis Michel, ils m'invitent partout, tout le temps, tout le temps. Je rentre au bordel, gratos. Partout où je passe. Et que j'ai fait, non, pardon, mais là, moi, je participe. Fait que j'ai acheté mes deux billets, puis j'ai une passe que j'ai même pas demandé, que c'est Michel, Mike, là, qui m'ont une passe pour aller au party après, toute la patente. Fait que, tu sais, mais je voulais pas, je me sentais pas, je sais pas. Je me disais, je têterais pas là-dessus. Je trouve trop que c'est hot. Puis là, ça m'amène à mon autre sujet. J'ai plusieurs sujets tous reliés. C'est quand je pense à ça, je pense aussi à la notion de courage qui existe, mais qui est exagérée comme étant une qualité des artistes. Pour être honnête, il y a un seul vrai artiste courageux que je connais au Québec, c'est Mike Ward, avec tout le combat qu'il y a eu contre Jérémy Gabriel. Puis ça n'a même pas rapport avec si on est pour ou contre. C'est pas là, quel courage, liberté d'expression, c'est même pas ça. C'est que la vraie définition du courage, des fois, on l'oublie. La vraie définition du courage, c'est entre deux options, je prends celle qui correspond soit à mes objectifs ou à mes valeurs. Je prends pas celle qui est facile. Pensez-vous que je trouve ça courageux, moi? Tel comédien qui dit « Oui, moi, je veux sauver une rivière. Oui. Moi, je milite pour l'eau potable. Oh my God! Le courage, toi, chose, incarné. » Bon, mais c'est tout ça tout le temps, tu sais. Ça fait que quand tout à coup, là, il y en a un vraiment... Parce que la raison pour laquelle on associe le courage aux artistes, c'est qu'on se dit « Faut être courageux, hein, entre guillemets. » Vous les voyez pas, mais je l'ai fait. Là. Pour faire une carrière d'artiste, hein, c'est difficile des fois, t'es à la fin. Non. Non, parce que pour le trois quarts, c'est ça ou flipper des burgers. Ça fait qu'il n'y a pas d'option. C'est comme « Ah, tant mieux, ça marche. Sinon, je serais un sombre inconnu dans une job bizarre. » Le vrai courage, c'est pas de faire quelque chose de difficile. C'est faire quelque chose de difficile quand tu pourrais faire quelque chose de facile. Si tu l'as pas l'option, c'est pas du courage, mais elle est pas les affaires. Ça fait que ça me rend encore plus fier, comprenez-vous, d'aller voir Mike puis de dire quel événement, c'est malade. c'est... Moi, je sais pas si le monde réalise, je vous le dis honnêtement. C'est un exploit de toutes les sortes. C'est médiatiquement, c'est tout. Et quelle leçon! Imaginez, c'est le public le plus dur, le public de sous-écoute, c'est celui que la TV et la radio n'est pas capable d'aller chercher. Sauf quelques exceptions, le 25-54 et encore plus. Ça, puis lui, c'est même pas 25-54, c'est encore plus raide. Ça doit être 18-35, tu sais. Puis même, il y a des ados, c'est plein à 15 ans qui écoutent ça. Man, qui est capable de leur parler, eux autres? Personne. Ça fait que c'est pour des raisons de courage, c'est pour des raisons de persévérance. C'est tout ça qui fait que je trouve que c'est hommage. Je le dis très ouvertement, hommage. Et là, ça m'amène à un autre sujet. J'ai vu en fin de semaine, et là, je me souviens plus où, mais j'ai vu la face de la porte-parole de Progressive, qui est une assurance aux États-Unis, dont j'ai été client pendant 10 ans. C'est-à-dire que quand... pas 10 ans, 5 ans. C'est-à-dire que mon ancienne moto, moi, est allée mourir quand j'avais mon condo en Floride. Je l'avais plaqué là-bas, quelle aventure d'ailleurs. Oh my God, faites jamais ça. C'est interminable. Ça fait qu'à un moment donné, bon, Eureka, c'est fini, j'ai ma plaque. Et là, tu t'assures, bien entendu. Puis je m'étais assuré chez Progressive. Puis eux autres, depuis à peu près 20 ans, je me souviens que c'était dans le temps où moi je m'assurais, ils ont commencé une campagne avec une porte-parole qui était totalement inconnue. Puis qui, encore aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai vu en fin de semaine. Je vous le dis, je me rappelle plus c'est exactement où, là, mais je l'ai vu. J'ai fait « La fille a vieilli ». Ça fait 20 ans. Elle devait avoir 25 ans dans le temps. Aujourd'hui, elle est rendue à 40 quelques. La même gros cheveux noir. Elle a un casting très typique. Là. Elle a une face... c'est une belle fille. Mais très... avec des traits hyper définis. Je ne sais pas comment dire. Ils l'ont casté comme n'importe quelle agence de pub pour une pub. Puis on dit, OK, toi, là, inconnu, là. C'est pas l'acteur d'Hollywood ou telle affaire. Tu vas devenir notre porte-parole. Ben, sais-tu quoi? 20 ans plus tard, c'est encore elle, la porte-parole. Et ça m'a frappé dans la face parce que ça, c'est la concrétisation d'une idée que je vous ai déjà dit, que je n'étais pas capable de... J'avais pas les bons exemples. C'est que je disais tout le temps, comment ça se fait que les médias courent toujours après les gros noms quand tu peux inventer ton gros nom? Puis l'exemple boiteux que je donnais, c'était une compagnie d'assurance, justement, c'est drôle, hein? Je me disais, imagine une compagnie d'assurance qui pourrait dire, hey, nous autres, on peut inventer notre meilleur vendeur. Pour une raison X, là, on a comme une espèce de boîte magique, on rentre quelqu'un là-dedans, puis quand il ressort, c'est le meilleur vendeur au Canada. C'est-à-dire qu'on l'engage, puis comme de raison, vu qu'il est tellement bon, bien, il devient super bon. C'est-à-dire qu'on ne vole jamais à job à nulle part. Bien, ça, là, les médias peuvent le faire. Les médias peuvent dire, « Hey, elle, là, elle est bonne en tabarouette. Elle n'est pas connue encore, mais elle est vraiment bonne. » Elisabeth Crête, d'après moi, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais c'est 1 sur 1000. C'est-à-dire que là, on va l'asseoir le week-end, on va lui faire faire de la ligne ouverte l'été. Puis, « Hey, hot, on va en faire une vedette. On a une antenne. » Bon, mais je suis tellement pas dans le champ, c'est tellement vrai que, prenez des exemples de campagnes publicitaires où le porte-parole n'est pas connu, mais devient connu parce que tu fais du placement. Alors, eux autres, en plus, il faut qu'ils payent pour que ta pub passe, il faut que tu payes. Le média, lui, paye pas. Il reçoit des commanditaires. Vous rendez-vous compte? Ça fait que chaque média peut créer sa vedette. Qui le fait? C'est malade, hein? Fait que ça m'a sauté dans la face. J'ai fait « aïe, il faut que je leur en parle. » Et dernier point, j'ai vu une conférence que donne Xavier Gorce. Alors, qui est Xavier Gorce? Ça a été pendant, je crois, c'est 20 ans, le caricaturiste du journal Le Monde. Et lui faisait des petits pingouins, c'était très stylisé, là, des pingouins genre avec 2 traits de crayon. Puis qui faisait toujours comme une caricature, un commentaire sur l'actualité du jour. Puis un jour, il a été désavoué par le journal. Le journal a dit « Oh mon Dieu, on s'excuse, notre caricaturiste, là, il est allé trop loin, telle affaire. » Puis il a fait « Ah ouais? Chut, ciao, bye. » Il a sacré son camp. Puis là, il continue, il fait ses dessins, les mêmes dessins. Il a gardé les droits sur ses pingouins. Il fait ça sur son site web, sur Twitter. Puis il a de la job, je sais pas trop quoi, mais je pense que c'est quelqu'un qui roulait fort là, ces années-là dans un des plus grands journaux du monde. Là. Le Monde, c'est New York Times en France, quasiment en Europe. T'sais. Puis il expliquait des affaires super intéressantes sur c'est quoi l'humour, que j'avais jamais entendu. Puis, entre autres, il disait l'humour, il dit c'est enlever l'émotif du propos. Il dit quand tu fais de la caricature, par définition, t'es mordant. T'sais, une caricature, c'est un éditorial. Ça fait que pour ça, il faut que tu enlèves les motifs. Il dit, la période aujourd'hui où est-ce que tu as plein de monde qui disent, puis la cancel culture, blablabla, c'est qu'ils disent, oui, mais l'humour, il faut faire attention à ça. Donc, il faut faire attention au ressenti qui est créé. Or, l'humour, c'est enlever le ressenti. C'est avoir un propos qui est comme un propos d'ordinateur. L'humour vient de là. C'est comme, oh my God. C'est drôle parce qu'on a enlevé les motifs. Moi, je trouve ça incroyable. Puis j'ai réalisé que les fois où j'ai été le plus percutant, que j'ai eu le plus de succès en humour, c'est pas quand j'étais rassembleur, ce qui est mon nature. Mon naturel, c'est d'être un rassembleur. Mais en humour, c'est quand je dérangeais. Quand j'ai arrêté de déranger, tout le monde s'en est crissé. Tu es comme, on s'en fout, lui. Puis je l'ai reprouvé, c'est aux soirées GHB. Quand j'étais allé au GHB, que j'ai fait mon numéro le plus élevé que je pouvais composer. Tu sais, j'ai pris comme plein de lignes qui n'étaient pas jeunes, en plus. Là, j'ai commencé par baver du monde dans la salle. Des jokes de nazis, des jokes CBS, des jokes ces filles trop maigres, tout ce que j'ai de pire dans mon catalogue, c'est mon stand-up le plus efficace, que j'ai refait 2 fois à la fin du mois d'ailleurs. J'ai raté, j'étais supposé être au terminal, puis j'ai une complication chez le dentiste le matin, imaginez. Je m'en allais parce que là, je veux le tester dans un autre environnement, moins hard, tu sais. Mais j'ai fait, aïe aïe, c'est comme, tu te rends compte que selon l'activité que tu fais, tu peux être 2-3 personnes. Tu peux être une personne d'angle mort. Angle mort, c'est Marc Boilard pur. Tu peux être à la radio du très Marc Boilard, mais avec un petit filtre ici et là, parce qu'à un moment donné, c'est la radio publique. Mais presque pas. Soyons honnêtes, presque pas. Puis tu peux être une version exagérée de toi-même dans un contexte. Puis dans mon cas, c'est ça. C'est que je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que plus ils sont fidèles à qui ils sont, meilleurs ils sont. Parfait. Mais moi, là, j'ai réalisé ça. Je suis drôle quand je dérange. Alors évidemment que ça fait bien plus de monde qui n'aime pas ça. Mais ceux qui aiment ça, puis qui font comme, OK, eux autres, c'est des fans, c'est quand je dérange. J'en reviens pas. Jamais j'aurais décortiqué ça. C'est pour ça que je vous en parle, ça peut vous intéresser. Mais moi, tout seul, j'aurais jamais fait, ma réflexion, elle n'est pas là. Ça prend vraiment une hyper pro. Puis c'est drôle, c'est pas un stand-up, le gars, c'est un caricaturiste. Mais en même temps, il est aux prises avec la même dynamique. faut que fasse rire le monde en disant quelque chose d'éditorial. Aïe, aïe, j'ai trouvé ça comme... Si ça vous tente d'aller voir, dans YouTube, faites Xavier Gorce, G-O-R-C-E, conférence. Puis il y a deux autres points. Il y a trois points qui disent c'est la caractéristique de l'humour. Il y a deux autres points, puis je les ai oubliés. Parce que c'était à travers une autre entrevue qu'il donnait, on a vu un extrait rapide. Mais celui-là, tu vois, j'ai fait aïe, aïe. Ça fait que, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se reparle cette semaine.